Bonsoir Ségolène Royal.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. On va revenir dans un instant avec vous sur les réactions politiques après le meurtre dans cette mosquée du Gard. Mais je vous propose de partir en Italie, retrouver notre envoyé spécial Hugo Smargue. Vous avez, bonsoir Hugo, vous avez rencontré l'avocat du meurtrier présumé qui s'est rendu à la police après 3 jours de traque.
C'est ça, tout à fait. Il nous a donné quelques précisions, notamment sur cette traque, sur le fait que son client était arrivé en Italie par le train, qu'il est venu ici à Pistoia, à quelques dizaines de kilomètres de Florence, pour trouver refuge chez sa tante qui habite dans cette ville. Il serait arrivé samedi soir chez sa tante et c'est le dimanche matin qu'elle lui a demandé pourquoi il était venu, quelles étaient les raisons de sa venue, car elle n'était pas du tout au courant du fait que son neveu était recherché. Et c'est lorsqu'il lui a avoué avoir commis un meurtre en France qu'elle a enjoint son neveu à venir ici au commissariat central de Pistoia pour se rendre auprès des autorités italiennes. C'était hier soir, il était environ 22h, accompagné d'un avocat que connaît la famille, qui se sont rendus ici pour que Olivier A puisse se rendre aux autorités italiennes. Nous avons rencontré, vous l'avez dit, cet avocat. Je vous propose de l'écouter sur son client.
La police l'a questionné à propos de ses motivations, mais il était très confus. Il n'a pas pu confirmer de mobile. Il a dit qu'il avait tué la première personne qu'il avait rencontrée. Il n'a pas dit qu'il recherchait une personne musulmane. Donc je ne sais pas s'il y a une motivation raciste derrière cet acte.
Désormais, à la suite pour Olivier A, eh bien, il doit être présenté à la cour d'appel de Florence qui va lui demander s'il accepte d'être remis aux autorités françaises. D'après son avocat, il devrait accepter cette remise aux autorités françaises où il sera donc présenté à un juge d'instruction qui a été désigné ce matin dans cette affaire.
Merci Hugo Smag en direct de l'Italie. Alors Alain Duhamel, ce matin Xavier Bertrand sur le plateau de BFM TV estimait que Bruno Retailleau avait tardé à réagir, il fallait y aller aussitôt. Certains membres du gouvernement refusent également d'utiliser le mot islamophobie. Y a-t-il deux poids deux mesures ?
Bon, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord pour discuter sur le fait de savoir si Bruno Retailleau a été trop lent pour savoir si la politique qu'il mène, la façon qu'il a de l'exprimer sont un facteur aggravant dans la situation actuelle. Je suis tout à fait d'accord pour en parler. Mais je voudrais dire d'abord, avant, parce que je ne l'ai pas tellement lu et entendu, que si on peut discuter sur la rapidité de réaction publique du gouvernement, en revanche, l'instantanéité de la réaction de la police est une réalité et qu'elle a eu tout de suite tous les moyens qu'il fallait et qu'on lui a demandé tout de suite d'aller le plus vite possible. Et que ça a marché au bout du compte. Bon, deuxièmement, que avant de parler d'islamophobie, qui est tout à fait une des hypothèses, évidemment, surtout venant d'un Bosnien qui appartient à un pays dans lequel les trois communautés catholiques, orthodoxes et musulmanes...
Lui, sont... il est membre de la communauté rome. Jean du voyage.
Enfin, en tout cas, il a des contacts avec eux, ça c'est sûr. Bon, mais c'est un pays où les haines et les massacres même intercommunautaires ont existé. Il y a plusieurs hypothèses hein, dans son geste qui est évidemment totalement inexcusable. Ça peut être l'islamophobie, tout à fait. Ça peut être le racisme. Puisque le malheureux qui s'est fait massacrer,
c'est un Malien.
Donc ça peut être une de cette hypothèse-là, ou il peut être également, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'autres exemples de crimes de ce genre, largement dérangé mental. D'ailleurs, les choses ne sont pas incompatibles complètement les unes avec les autres.
L'avocat a dit qu'il avait voulu tuer la première personne qu'il croisait.
Oui, bon, alors ça, on verra. Okay. Le fait que ce soit dans une mosquée, a priori, c'est quand même pas un hasard absolu. Mais donc, je pense qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs. Bon, alors ensuite, je suis bien d'accord qu'il faut discuter sur est-ce que les réactions ont été ce qu'elles devaient, et est-ce qu'elles ont été au rythme qu'on pouvait attendre, et est-ce que il n'y a pas de responsabilité spécifique dans le fait qu'en France, en ce moment, on voit à la fois une montée simultanée de l'islamophobie, pour l'appeler par son nom, de l'antisémitisme Et troisième facteur, des violences d'adolescents ou de jeunes adultes, de plus en plus.
Oui, parce qu'il est jeune, hein, l'agresseur, il est né en 2004,
Sylvain Royal. Oui, c'est ça. Oui, donc effectivement, le débat sur le fait de savoir est-ce que c'était assez rapide, pas rapide, pourrait paraître secondaire. Et en fait, il ne l'est pas, ce débat. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Intérieur est ministre des Cultes et que l'on est dans une société, dans un contexte extrêmement fragile, où il y a beaucoup de violence, de montée d'intolérance, des réseaux sociaux qui incitent au passage à l'acte. Et donc, il est très important que le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, ne fasse pas de différenciation entre les crimes et entre les religions qui sont visées. Et là, il a fait une différenciation, puisque même des responsables politiques de son bord politique le reconnaissent.
Et il a fait une erreur politique de ne pas se rendre immédiatement sur place. Il a attendu deux jours, il y a été dimanche.
Mais je pense que c'était volontaire. Ah c'est bon ça qui est grave. Pourquoi c'était volontaire, ministre de l'Intérieur ?
C'est parce qu'il dit, hein. Il dit qu'il n'avait pas toutes les infos et qu'il attendait d'en savoir plus.
C'est pas crédible, puisqu'il y a une vidéo où l'attaquant insulte la religion et frappe un homme qui est en train de prier. Donc, il avait parfaitement toutes les infos. Et de toute façon, même s'il n'a pas tout de suite toutes les infos, il aurait dû faire comme il fait à l'égard d'autres religions, c'est-à-dire se déplacer tout de suite. Et la deuxième différenciation, parce que ce qui compte, c'est la différenciation. C'est ça qui fragilise une société. Et en plus, qui peut nourrir les radicalisés. Parce que les radicalisés se nourrissent justement des frustrations et des souffrances. Et donc, il y a une deuxième différenciation, c'est qu'il n'est pas allé dans la mosquée. Il s'est cantonné à la sous-préfecture. Or, partout où il y a eu des crimes commis dans les synagogues ou dans les églises, des crimes abominables, il s'est rendu dans les lieux de culte, puisque ça ne porte pas atteinte à la laïcité, il est ministre des cultes. Et enfin... Et je remarque que Alain Duhamel utilise le mot islamophobie à juste titre. Il relance en plus une polémique en disant que l'islamophobie n'existe pas. Manuel Valls a dit la même chose. Et ça, c'est insupportable.
C'est le terme, en fait, qui est contesté parce que ils disent
c'est
un concept qui a été mis en place par les islamistes pour empêcher toute critique de la religion. Ils parlent plutôt d'actes anti-musulmans.
Mais c'est faux. C'est faux.
Non, mais c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument.
C'est ce qu'ils disent, mais vous voyez, quand on conteste le vocabulaire, c'est qu'on conteste les faits. Et ça aussi, il faut faire attention.
Alors, le terme islamophobie, il ne faut pas l'utiliser ou il faut l'utiliser ?
Non, je l'utilise et je pense qu'il
est... Parce que François Bayrou l'a utilisé, mais Manuel Valls, ni Valls ni Bruno Retailleau l'ont utilisé.
Il y a sur ces sujets qui ne sont pas des sujets simples. Il y a sur ces sujets, d'une part, des antagonismes croissants et profonds qui, bien entendu, font d'abord et de l'antisémitisme et de l'islamophobie les deux pôles les plus dangereux, mais qui, en réalité, créent des animosités dans l'ensemble de la société. Et quand je dis des animosités, c'est aussi de la violence croissante. Donc, il ne faut pas croire que c'est d'abord deux communautés qui sont attaquées d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi la société elle-même qui est attaquée, parce que ce sont les clivages de tous qui sont en train de se creuser. Alors, il y a des sensibilités différentes au gouvernement, on le sait, hein, c'est pas une nouveauté, il y a d'ailleurs des sensibilités différentes dans ce gouvernement sur l'ensemble des sujets. Alors donc, faut pas avoir l'air surpris du fait que François Bayrou dise islamophobie, que Bruno Retailleau ne le dise pas, etc. Ce gouvernement fonctionne de cette manière-là. Mais derrière ça, moi, ce qui me frappe, alors je veux surtout pas éviter la question des responsabilités individuelles, je suis bien d'accord pour parler de Bruno Retailleau. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point non seulement ces animosités sont en train de se créer entre des communautés, mais à quel point c'est contagieux sur l'ensemble de la société, y compris ce qui est la grande majorité, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à aucune des deux communautés qui sont attaquées le plus, c'est-à-dire d'un côté la communauté juive et de l'autre côté la communauté musulmane. Et de ce point de vue...
Et la
vous savez,
des chrétiens également.
Oui, bien entendu. Oui. Mais vous vous rappelez que pendant des années, on voulait nier le fait... En disant soit ce sont des individus ou des dérangés mentaux, ce qui a été le cas dans effectivement un certain nombre de meurtres de ce genre, mais ça n'est pas un phénomène de l'ensemble de la société. Eh ben si, c'est un phénomène de l'ensemble de la société. On est dans une société qui est plus fracturée qu'elle ne l'a jamais été et qui est dangereuse parce qu'on voit, en particulier, mais pas seulement, chez les adolescents, que cette violence ne fait que croître.
Alors, oui, c'est la raison.
On parlait de la récupération, on parlait du manque de réaction de Bruno Retailleau. En revanche, la France Insoumise n'a pas attendu, parce que dès hier, il y avait une manifestation à Paris. Donc on voit bien qu'en fonction des faits, on réagit plus ou moins rapidement. Et regardez cette image saisissante. Jean-Luc Mélenchon en pleurs parce qu'il venait de rencontrer une personne de confession musulmane qui expliquait qu'elle ne se sentait plus en sécurité en France, donc il la prend alors devant les caméras dans ses bras et les larmes ensuite de Jean-Luc Mélenchon qui accompagne les pleurs de cette femme. Alors là, du coup, on réagit rapidement. Alors quand est-ce que c'est de la récupération politique ou quand est-ce que c'est des réactions sincères?
Oui, non, mais vous aurez remarqué aussi qu'on passe de Bruno Retailleau à Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'on n'a pas fini d'analyser, si
d'accord,
je peux me permettre.
C'était pour un petit peu avancer, parce que
C'est une manifestation personnelle dans le cadre d'une mobilisation de solidarité. D'ailleurs, ils sont sentis bien seuls pendant 48 heures, les musulmans. Ils ont été abandonnés par l'État, parce que personne ne s'est déplacé. Et j'observe que...
Tout le monde a condamné l'acte.
Ils ont réagi plus vite à l'attentat au Canada qu'à l'attentat sur notre sol dans une mosquée. Et si l'on continue la question de la différenciation, parce que pour rebondir positivement sur ce que dit Alain, dans cette société fracturée, une des façons de lutter contre la fracturation de la société, c'est de ne pas faire de différence entre justement les différentes croyances, les différentes sensibilités, même les non-croyants. C'est ça la question centrale. Or, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une autre différenciation, c'est que quand les attaquants sont musulmans, on parle de terrorisme. Quand un attaquant est comme dans le lycée de Nantes qui a effroyablement massacré la petite Lorraine, qu'il se dit pro-nazi, c'est plus un acte terroriste. Quand un assaillant tue quelqu'un qui est en train de prier dans une mosquée, c'est plus un acte terroriste. Or, le terrorisme, c'est la terreur. Et toutes les motivations mentales de ceux qui commettent ces actes sont des formes de terrorisme. Alors, et j'en termine pour dire, pour revenir à islamophobie, parce que cette question va revenir dans le débat public. Phobie, ça vient du mot grec qui dit peur irraisonnée et même maladive. C'est ça que ça veut dire. Et c'est même un concept en médecine psychiatrique. Donc, on peut pas dire pour certains, ils sont fous, c'est pas grave, etc. Et pour d'autres, ils sont contaminés par le terrorisme. Je pense qu'il est très important que tous les actes qui sèment la terreur soient qualifiés d'actes terroristes.
Mais le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de ce qui s'est passé à Nantes.
Exactement.
Parce qu'il n'y avait pas de présomption que ce soit un acte de nature terroriste.
Et là non plus, n'est pas saisi. D'ailleurs, l'avocat de la famille de ce Malien s'en est plaint sur BFM.
Bon, alors, moi, je suis d'accord sur une chose et moins sur une autre. Je suis d'accord sur une chose qui est que il n'y a pas des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Il y a des individus qui se font massacrer. Et il y a des communautés qui se font traiter de façon discriminatoire. C'est vrai des juifs, c'est vrai des musulmans. Et c'est l'ensemble de la société qui est touché par cette contagion-là et par les simplifications. Alors, parmi ensuite les meurtres et les horreurs qu'on ne cesse de connaître, il y en a qui sont effectivement le fait de gens qui sont des dérangés mentaux. C'est pas une satisfaction. De se dire « Ah bon, c'est des dérangés mentaux ». Non, mais il y en a, quand c'est vrai, c'est vrai. Puis il y en a d'autres, et puis il y en a d'autres qui ont... Il y en a d'autres qui ont des ressorts qui se veulent, qui sont souvent primitifs, mais qui se veulent idéologiques ou politiques. Et les deux existent. Quelquefois, les deux se confondent, se conjuguent, mais d'autres fois, on a vraiment affaire à un adolescent qui a des problèmes psychiatriques lourds.
D'ailleurs, qui est toujours interné dans un hôpital psychiatrique. Ça n'a pas été entendu par la police.
Par exemple.
Oui,
et dans d'autres cas où on peut suspecter des arrière-pensées idéologiques.
C'est vrai.
J'allais dire organisées. Organisées, c'est peut-être trop. Mais conscientes, en tout cas, et assumées dans certains cas.
C'est vrai.
Mais cela il faut réagir de la même façon vis-à-vis de toutes.
C'est vrai, mais vous serez d'accord pour dire que cela ne peut être constaté qu'après un minimum d'investigation.
Ben oui.
C'est pour ça que peut-être pas réagir politiquement trop rapidement.
Non, mais il faut une investigation. C'est pour ça qu'il ne faut pas écarter systématiquement le fait que ce soit un acte de terrorisme, c'est-à-dire influencé peut-être par son milieu.
Je crois que ça n'a pas été écarté parce que pour l'instant l'enquête ne.
Oui, mais vous observerez que dans certains cas, en fonction du profil des assaillants, c'est immédiatement classé et pas dans d'autres cas. Mais peu importe.
Parfois c'est évident.
Parfois c'est évident, parfois ça ne l'est pas. Bah oui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas, je le répète, de différenciation. Mais pourquoi je disais tout à l'heure que c'était volontaire de la part de Bruno Retailleau ? C'est parce qu'il est en campagne électorale. Et comme il y a une obsession... Il y a une obsession sur le fait de rattraper les voix du Front du Rassemblement National. Et donc, cette obsession de ne pas leur laisser le monopole de la dénonciation de l'islam, cette obsession. Et donc, il a calculé, enfin, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'image. Parce qu'il l'a dit lui-même à un moment, il l'a dit au détour d'une phrase, on m'a conseillé d'être prudent. Mais il n'aurait pas été prudent à l'écart d'autres confessions religieuses. Et donc, je pense que le fait qu'il ne se soit pas déplacé, c'est aussi parce que physiquement, il était en campagne électorale interne pour la conquête d'un parti, et que sur le plan idéologique, il s'est demandé si finalement ça n'allait pas lui faire perdre des voix que d'aller dans une mosquée. Il est d'ailleurs pas allé dans la mosquée, il est resté à la sous-préfecture, et ça, pour un ministre chargé des cultes, ce n'est pas normal. Alors,
d'accord, c'est parce qu'il est en campagne que Bruno Retailleau n'a pas réagi tout de suite.
Alors, ça n'est pas le seul facteur. Que ça joue, oui, mais ça, d'ailleurs, ça perçait dans certains propos. En fait, le fait qu'il soit en campagne surexposé, et souhaitant être surexposé, bien entendu, ça l'incitait même, ça le contraignait à des formes de prudence, parce que ça n'est certainement pas quand il est à 2 semaines du vote qu'il attend.
Mais c'est qu'il peut se demandé.
Attendez, c'est moi qui parle.
Oui.
C'est chacun ministre. Son tour.
Oui. Oui.
Donc ça signifie que il sait très bien que un dérapage en ce moment serait une catastrophe. Donc que ça l'ait incité à être très prudent et tardif. Dans l'expression, je crois que c'est effectivement lié à la surenchère de Laurent Wauquiez.
Du coup, il est sur la défensive, Alain.
Mais bien entendu.
Et c'est la première fois qu'on voit ainsi, d'ailleurs.
Non, mais sur la défensive, dans l'expression publique. Mais j'insiste sur ce par quoi j'avais commencé tout à l'heure. Le fait qu'il y ait... On peut discuter s'il a parlé trop vite, trop lentement, pas parlé du tout, et s'il a bien parlé ou mal parlé. Ce qui était à la base de tout et qui était l'essentiel, c'est que immédiatement les enquêtes soient lancées avec tous les moyens.
Non, mais
attendez,
c'est le procureur, c'est pas le ministre.
Avec tous les moyens nécessaires et que ça ait abouti à un résultat. De ce point de vue, il n'y a pas eu l'ombre du commencement d'une attente. Heureusement.
Il y a une telle confusion de valeurs que finalement, on s'étonne même que la police et que la justice fonctionnent, heureusement.
Oh, bah oui, mais ça, si dans l'histoire de la France, la justice et la police avaient toujours bien fonctionné, alors là.
L'instance locale, en plus, c'est pas le ministre de l'Intérieur, ça.
D'autant que le procureur avait dit que l'individu était dangereux, donc il y avait urgence, effectivement, lui mettre la main dessus.
Ben, bien sûr.
C'est ça.
Et que sa fuite a été quand même organisée, visiblement, par des complices aussi. Il n'était pas tout seul. Oui. Donc l'enquête n'est pas terminée, loin de là.
Non, mais c'est pour ça que je vous disais, au départ, il peut y avoir plusieurs explications. Il peut y avoir la xénophobie, il peut y avoir le racisme, il peut y avoir le dérangement, il peut y avoir des incitations de je ne sais quel groupe. Et le fait qu'il soit bosnien, ça incite quand même à être prudent sur les interprétations.
Merci à tous les deux.